véritable, doit porter comme marque de fabrique 5 anneaux gravés sur le corps et en haut, 2 anneaux frappés sur le bec. 1850.
Bonjour Pauline, tu vis depuis combien de temps ici ?
J'ai jamais vu un rabot comme ça, c'est vraiment un rabot de lutherie ça.
Non.
Non ?
6 mois et demi.
Et tu sors d'une formation en fait ?
Ouais.
Voilà, et donc tu viens pour pratiquer la lutherie ?
Pour pratiquer, travailler et gagner ma vie d'une part et continuer à apprendre.
Donc JB, toi tu viens d'où ?
Au départ ?
Ouais.
Près d'Avignon, de Neuf-sur-Seize.
Ouais. Et t'es parti faire l'école de lutherie alors dans les Vosges.
Voilà.
Et qu'est-ce qui t'a incité à faire ça ?
Bah parce que, disons que j'ai passé pas mal d'années à chercher ce que je pouvais bien faire parce que finalement j'allais dans plusieurs directions. Puis en fait, il n'y avait rien qui m'intéressait, donc si ça m'intéresse pas, ben. Je suis pas un bosseur acharné qui peut apprendre n'importe quoi.
Et qu'est-ce que t'as trouvé dans la lutherie qui t'a séduit ?
Ce qui m'a séduit dans la lutherie, déjà c'était le matériau, le bois. Mmh. Puis c'est vrai que j'ai quand même fait pas mal de musique. Mmh. Donc finalement c'était quelque chose
qui... C'était venu de la musique, l'idée de t'intéresser à l'objet quoi.
Ben oui, disons que une fois que j'ai commencé à faire du violoncelle, j'ai vu la musique différemment. Parce qu'on a vraiment un contact avec l'instrument à cordes qui est très charnel. On ressent vraiment les vibrations à travers le corps et c'est vraiment un instrument qui est très attirant.
Mmh. Et donc là, en ce moment, chez Katerina, tu fais quoi ? T'es en stage ?
Je suis en vacances.
Ah, t'es en vacances ?
Oui.
Ah, d'accord. Et donc, t'en profites pour venir travailler ici à l'atelier ?
Voilà, pour apprendre des trucs dont je vais avoir besoin bientôt.
D'accord. T'es en quelle année, là, de formation ?
Je suis en deuxième année.
Et c'est combien ? C'est 3 ans, disait Pauline.
Oui, c'est ça, c'est en 3 ans.
Ouais. Et qu'est-ce que tu comptes faire après ?
Après ? Justement, me promener un petit peu, faire des stages et puis.
D'aller de luthier en luthier comme ça.
Un petit moment.
Il y en a combien en France des luthiers ?
Je crois que c'est autour de 280, quelque chose comme ça.
J'aurais dit plus, moi.
Et ils n'ont pas, tous un atelier ?
Ben c'est ça, c'est combien d'ateliers ou combien de luthiers ?
Il peut y avoir plusieurs luthiers par atelier, quoi.
Ouais, voilà, il y a des luthiers, des employés, des fois 2, 3, 4 pour le gros atelier, vraiment, il peut y avoir.
Donc vous avez le choix soit d'être salarié d'un atelier de lutherie, soit de vous mettre à votre compte, soit...
Le choix,
je suis pas sûr, c'est ce que j'allais dire.
Ouais.
C'est les choses se font comme elles doivent se faire, et puis voilà, on ne sait jamais où on va arriver, où on va atterrir.
Mais vous pouvez aller chercher l'enseignement de telle ou telle personne.
Quand on sort de l'école, il ne faut même pas compter s'installer, c'est sûr. Il y a au moins 10 ans, 8-10 ans où tu ne t'installes pas. Quand tu as trouvé du travail, ça commence à devenir...
Bien.
Les parties du violon, souvent dénomment parties du corps et mains.
Ouais.
Donc, t'as la tête. On en parlait une fois, c'est ça. T'as la tête, t'as le talon.
C'est quoi le talon comme partie ?
Le talon, c'est ça.
D'accord, c'est en bas du manche, avant le corps, quoi.
Voilà. Donc, il y a le talon, il y a le dos, il y a les ouïes, il y en a trouvé plein hier, en plus.
Les ouïes, c'est quoi ?
Les ouïes, c'est ça.
D'accord, c'est les petits dessins qu'il y a sur le...
Voilà.
Comment ça s'appelle cette partie-là ? Le coffre, le ventre ?
La table.
La table.
Devant, c'est la table, les chevilles.
La pièce qui tient les cordes.
Cette partie-là, c'est l'estomac.
Ouais.
Et puis, il y a l'âme à l'intérieur.
Ouais.
Et voilà, donc il y a tout un vocabulaire aussi qui se rapporte au corps humain. Donc, ça, c'est le pied de manche. Le cul de poule, donc ça. Animalier. Mais
et la partie donc, qui voilà. Tient les cordes là sur le dessus
ça
ouais et puis en haut sur la partie supérieure
tient les cordes ça
le truc noir là
ça ouais. C'est la partie où on pose les doigts, ça s'appelle la touche
et la pièce que tu tiens dans ta main gauche
c'est le chevalet.
Réfléchir
la même chose que tu fais avec ton chevalet, tu le regardes pendant 10 minutes, tu réfléchis, tu mets un copeau.
Tu comprends? C'est ça la manière de faire. C'est pas, j'essaye de comme ça. Est-ce que tu as établi une chaîne, quoi, une méthodologie de chaîne opératoire? Si tu fais ça comme ça, comment tu, est-ce que tu fais en deuxième, en troisième, en troisième?
Qu'est-ce qui crée l'angle des cordes, en fait, arrondi, qui permet de pouvoir frotter une corde sans frotter d'un côté?
Et tu me disais, vous en recevez des toutes faites que vous ajustez, en fait.
Ils sont gauchers, quoi, qui créent des coupées. Et déjà après, ils sont adaptés.
Il y a déjà des trous pour les cordes ou pas?
Ah non, non, ça, de toute façon, la hauteur est faite, tout ça, ça va partir. La hauteur, elle se fait après en fonction du violon, quoi.
Et tu peux passer combien de temps à travailler sur une pièce comme ça?
Alors, normalement, mais une heure. Enfin, je parlais. Une heure et demie.
Mmh. Et normalement, ça prend une heure, une banane, ça prend une heure.
Et moi, je mets beaucoup plus que ça, encore.
D'accord.
Et j'y vais encore plus.
Ouais, je t'ai pas compté.
Et cette pièce, elle ne peut pas être restaurée, c'est une pièce neuve, forcément.
Non, mais ça fait partie des pièces qu'on change régulièrement.
D'accord. Parce que, ça n'a pas d'incidence sur la valeur, parce que quand on dit, par exemple, un Stradivarius, enfin, moi, j'y connais rien, mais c'est des violons qui...
Non, 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 il n'y a pas de chevalet doré dessus.
D'accord, jamais.
C'est pas des pièces qui ont une durée de vie.
C'est un amortisseur, un chevalet.
Comment?
C'est un amortisseur.
C'est un amortisseur.
Qui se comporte comme un amortisseur et qu'on change comme on change un amortisseur.
D'accord.
Parce que c'est un amortisseur, c'est un consommable.
Donc il n'y a pas de. Alors est-ce qu'il y a des spécialistes aussi en lutherie des chevalets ou est-ce que ça fait partie des pièces qui sont. Je sais pas, par exemple, il y a des spécialistes au niveau des archers, il y a des gens qui fabriquent que les archers.
C'est un autre métier.
C'est un autre métier. Il y a des gens qui fabriquent.
On n'est pas luthier.
D'accord.
Luthier, c'est un métier,
oui.
Luthier, c'est un autre métier.
D'accord.
Il y a des luthiers comme moi qui font un peu d'archeterie, c'est-à-dire qui font l'entretien courant des archers, mais qui ne fabriquent pas d'archers. Moi, je suis archetier carbone, par exemple. Je fabrique des archers en fibre de carbone, en composite. C'est encore un autre métier. Ce n'est pas archetier bois.
D'accord.
Ça n'a rien à voir, en fait. Par la manipulation du matériau, en fait. Nous sommes incapables pour l'instant de certifier scientifiquement l'origine des violons, du violon en tant qu'instrument à cordes, du violon aussi de l'alto et du violoncelle, enfin de l'instrument du quatuor à cordes frottées. On sait que ça vient d'Asie, il y a plein d'hypothèses là-dessus. Celle que moi j'adopte, c'est celle qui dit que c'est un instrument chamanique qui a ses origines en Mongolie et qui a voyagé avec les différentes conquêtes de l'Europe par Genghis Khan plus.
C'est passé par la route de la soie ou pas du tout?
Évidemment. Donc il s'est retrouvé en Inde, ensuite il s'est retrouvé en Turquie. Tu vois bien le cursus. Sur la côte turque, on arrive à cet endroit-là, autour de l'époque médiévale, où donc cet instrument-là part en Europe de deux côtés. Du côté grec, où il est transformé en lyra, donc un mix entre la lyre grecque et cet instrument archer qui s'appelait en Inde le ravanastron. De l'autre côté, il est parti par la côte africaine du Nord, où il est devenu le rabab. Par la suite, les Arabes qui sont venus envahir l'Europe, qui sont arrivés jusqu'à Poitiers, ont amené cet instrument en Europe. Il est devenu le rebec, qui ensuite a donné le violon.
D'accord. Bon, il y a toujours eu
en
six,
gros, quoi.
Il y a combien de cordes? 4, 6? Je sais même pas. Je suis une merde.
4. Le ravanastron en avait 5.
D'accord.
La lyra et le rebec, curieusement, même si c'est des civilisations assez différentes, ils n'étaient pas utilisés pour le même genre de musique. Dans la civilisation arabe, a eu 3 cordes, la même forme, que la lyra, qui dans la civilisation grecque a eu aussi trois cordes et une forme puriforme, la même que celle du rebec.
Et elles ont un nom de note, ces cordes?
Oui, c'est la même que celle du violon.
Et que, c'est, tu peux me dire, c'est quoi alors la plus petite, la plus fine?
La ré sol.
La ré sol.
Ils ont eu la ré sol.
D'accord.
C'est-à-dire la deuxième, la troisième et la quatrième.
D'accord.
La corde la plus aiguë a été rajoutée par la suite quand on a inventé le violon en tant que violon.
D'accord.
Qui servait au départ à accompagner la danse de cour. Qui était enseigné dans les cours par les profs de danse de cours, qui étaient aussi les maîtres d'armes qui maniaient l'épée. C'est-à-dire qu'à l'époque, l'épée et l'archer étaient maniés par les mêmes personnes.
D'accord. Ils avaient c'est-à-dire une dextérité du poignet, peut-être.
C'est-à-dire que les violonistes et danseurs étaient des militaires.
D'accord.
Qui est très important au niveau musical.
Il est lourd, hein.
Celui-là est lourd, et c'est un rabot particulier. Enfin, c'est déjà un rabot qui. En ébénisterie, on ne va pas acheter des rabots aussi chers. Parce que c'est quand même un rabot qui est quand même cher, parce que le justement, il est lourd. Et ce poids donne vraiment un plat. Enfin, ça permet d'avoir vraiment utiliser le plat de l'outil pour se lever.
Et ça, c'est à toi, non, cette petite pochette?
Non, celle-là, c'est celle de Kate.
Et tu crois que je peux l'ouvrir?
Oui.
Parce que
c'est pochette avec tous ces canifs.
Ah voilà, c'est ces canifs. Ah là là, il y a des objets magnifiques. Ça fait des genres de lames de cutter quand elles très aiguisées, avec enroulé d'osier autour. C'est une pochette en cuir noir. C'est enroulé d'osier. Là, le tissage de l'osier est différent sur celui-là. Et la lame est sculptée. Il y a des jolis petits motifs. Celui-là a un manche en bois. Comment ?
Les motifs sur la lame, c'est des lames damassées. C'est-à-dire que c'est le forgeron quand il ajoute ses couches les unes sur les autres d'acier, qui crée un motif.
D'accord. Et là, il y a un manche en bois. Ça a l'air d'être un bois particulier.
De l'érable.
De l'érable. Alors là, c'est une pointe avec un lacet autour. Enfin, c'est une pointe. Non, ça ressemble à un tournevis, mais...
C'est un canif. C'est aussi une lame.
C'est un canif, mais qui n'a pas... Ouais, c'est une lame longue qui est fine. Encore une lame. Et là, encore une lame avec, sur le manche, des marques qui vont de 0 à 5. Donc, je pense que c'est des centimètres.
En fait, c'est un scalpel.
Ouais.
Qui est quand même assez pratique parce que ça permet d'avoir une lame qui est affûtée, très bien affûtée. Et on achète des lames affûtées toutes prêtes. Donc c'est vrai qu'il y a des choses pour lesquelles c'est sympathique.
Et là, il y a un manche noir, donc le bois, j'imagine que...
C'est de l'ébène.
C'est avec un manche de violon, non? Récupérer ce manche?
C'est avec des touches...
De violon.
Des cordiers, pardon. C'est des cordiers collés l'un contre l'autre, c'est deux cordiers.
D'accord. Et une pointe très fine et très courte. Et très pointue.
C'est un canif à cheval.
Donc ça, c'était la trousse de Katrina.
Oui.
Alors, dis-moi, il y a une lampe à huile, là. Je vois une lampe à huile. Et tout à l'heure, Katrina a versé un truc dedans. Ça a l'air d'être de l'alcool à brûler.
Oui, c'est une lampe à alcool. En
fait. Alors, ça sert à quoi, ça?
Ça sert au reméchage des archers.
Le reméchage des archers.
Voilà.
D'accord.
Donc, ça permet deux choses différentes. Donc, faire une ligature au bout des mèches.
D'accord.
C'est-à-dire une attache.
Les mèches de quoi?
Des d'archers.
D'archers, d'accord.
Les mèches, enfin les crins, ça s'appelle la mèche en fait. Association de tous les crins. Et donc une ligature, c'est d'abord tout simplement un fil qui est tourné autour de la mèche, qui est attaché donc fermement. Et ensuite on met de la colophane qu'on chauffe avec la petite lampe.
D'accord.
Pour que ça rentre bien dedans et que ça puisse vraiment bloquer, que ça ne se défasse pas.
C'était au moment où le violon est devenu violon à la Renaissance, vers l'an 1550 par là. Quoi. Donc là, le violon a eu un énorme succès. À cause de ça, de sa capacité d'adaptation à n'importe quelle musique, puisqu'il est fretless. Et qui couvre la tessiture humaine. Donc ça veut dire que n'importe qui peut jouer du violon, quoi, en fait. Et n'importe qui peut l'utiliser pour n'importe quelle tradition musicale. Il y a un deuxième très très grand, un deuxième élément très important avec ça, c'est que en fait le violon a une autre particularité, c'est qu'il n'a pas de correction de fréquence. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Sur la guitare, on a des frettes qui sont d'équerre avec le manche.
rapport au centre de l'instrument sur l'équerre, le chevalet est penché sur les aigus, de manière à ce que ça donne une longueur de corde plus grande sur les aigus que sur les graves.
Et en fait, alors, est-ce que vous restaurez des violons ou est-ce que vous construisez des violons ?
Dans l'atelier, il y a les deux. On fait les deux. Et c'est surtout la restauration, en fait, parce que c'est l'essentiel du travail et qu'on a moins de temps pour le neuf. Parce que le neuf, on n'en vit pas, quoi. Comme la plupart des ateliers en France, il y a assez peu d'ateliers en France qui vivent du neuf, quoi. Qui ne font que ça, quoi.
Et c'est quoi que vous rencontrez comme type d'usure sur les instruments ?
Alors, il y a des, grands classiques. Ce qui est intéressant au resto, c'est qu'il y a des constantes et puis il y a... c'est à chaque fois différent, quoi. Il y a des trucs classiques, il y a des fractures, comme sur ce violon-là, voilà. Fracture là, parce que le scie est trop serré, alors forcément ça casse là. Fracture d'âme, parce qu'il y a un problème au niveau de l'âme, où il y a un choc, hop, fracture d'âme sur la table ou sur le fond. Fracture du talon, on en parlait tout à l'heure. Des rebouchages de chevilles à faire, parce que les trous, à force d'être matés, deviennent... les chevilles arrivent au bout, donc on change les chevilles, ou alors on rebouche les trous. Redressage de touche quand la touche, elle est tordue. Enfin, il y a des trucs qu'on fait tout le temps, quoi, ou régulièrement. Décollages divers et variés.
Mais sur quel type d'objet ? Uniquement sur des violons ou sur d'autres instruments ? Je vois qu'il y a d'autres instruments là.
Non, quand je dis violon, c'est la famille du violon. Donc mm-hmm. Violon alto, violoncelle, contrebasse.
D'accord.
C'est le terme générique. Mais c'est valable pour les autres.
Donc c'est les instruments du quatuor à cordes.
Du quatuor. Bah, en fait, le quatuor, c'est violon alto, violoncelle. Le quatuor, c'est trois instruments en réalité. On rajoute la contrebasse, bien que maintenant la lutherie contrebasse, ça commence à devenir une spécialisation à part.
Et donc les motifs là, comment vous les dessinez ? Parce que je vois qu'il y a des petits motifs de pochoirs, tout ça. Enfin,
c'est pas des pochoirs, c'est des relevés de Louis. Alors. Donc, si tu veux, les F, qu'on appelle F parce qu'ils ont une forme d'F, de lettre, ont apparu avec l'apparition du violon. Il y a des instruments, des rebec d'avant et des viols, sur lesquels on observe des trous qui ressemblent à des F. Des ouïes qui ressemblent à des F. Mais qui, par un temps, étaient des I, étaient des C, étaient des S, étaient des traits. Étaient des gammas, étaient, voilà, je pense qu'on a tout là.
Donc c'est censé reprendre l'idée de l'oreille, ou vu que ça s'appelle Louis, c'est...
Non, Louis, c'est l'endroit par lequel on ouïe le son.
Par lequel il sort du coffre,
il
alors.
Sort du coffre.
D'accord, voilà. Ah oui, donc c'est important.
On va dire ça comme ça. En réalité, il sort pas que par le, son, par le trou.
Il sort d'où alors ?
Question. Il sort par là, et aussi par les pores du bois.
D'accord.
Bon.
Et là, c'est la vibration qui est reliée au corps du musicien, enfin de l'instrumentiste, du violoniste.
Non.
Le son sort
par le corps, par les pores du bois. Mmh. Tous les pores du bois, ceux qu'on touche pas.
Et alors, moi, je sais pas, je joue pas le violon, mais quand t'es violoniste, au niveau de la vibration, enfin, au niveau de ton corps, c'est...
Alors, le violon a une très grosse particularité, il est plein de particularités, cet instrument. C'est qu'il coupe la tête du corps humain. Mmh, il est coincé entre les deux.
Mmh.
Ce qui veut dire que quand tu joues, tu te prends des vibrations assez constantes dans la tête. Parce que ce que tu entends de ton violon, c'est beaucoup les fréquences qui résonnent à l'intérieur de ton crâne. Mais pas que ça. C'est-à-dire que ces vibrations aussi résonnent sur les deux premières cervicales, le début de la colonne, donc, qui se trouve à l'arrière du cou. Il est coincé là-dedans, quoi, en fait. On est bien d'accord ? C'est la mâchoire qui transmet ça. Et en fait, le premier endroit affecté en même temps que le cerveau par les vibrations du violon, c'est ces deux premières cervicales qui sont responsables de la mise en transe de l'humain.
C'est en 3 ans, c'est l'équivalent d'un BTS en fait, c'est un bac plus 2.
D'accord. Qui peut être démarré à quel âge? Il faut le bac pour y rentrer?
Pour y rentrer, il faut au minimum 17 ans le bac. C'est tout.
Et ça dure 3 ans.
Ouais.
Et après, donc, on se perfectionne dans des ateliers.
Et après, il faut passer pas mal d'années parce que dans l'école, on n'est pas. Voilà, quand on sort de l'école, on est vaguement dégrossi. Donc, ouais.
Et comment tu décrirais ton métier? Un métier artisanal, un métier de compagnonnage?
Pas du tout un métier artistique, parce que souvent les gens disent vous êtes des artistes, c'est formidable, etc. Les gens sont très admiratifs, et donc quand les gens sont admiratifs, ils disent qu'on est des artistes. Est-ce que c'est vrai ? Des artisans, on travaille le bois, on fabrique un objet en bois qui est utile à un monsieur qui fait de la musique, parce que c'est son métier. Donc on fabrique l'outil, quoi. On fabrique un objet. Après, c'est sûr que c'est un objet quand même particulier. On peut à la rigueur parler d'artisanat d'art, on est classé les luthiers dans l'artisanat d'art. Maintenant, c'est pas de l'art dans le sens où il y a une liberté créatrice qui est quand même super restreinte. Voilà.
Il y a des règles donc qui sont très précises.
Voilà, on n'a pas.
La restauration.
Il n'y a pas d'œuvre, quoi. Pas d'œuvre. Donc on fabrique un truc qui va servir à quelque chose, quoi. Donc c'est de l'artisanat.
Et au niveau des outils, donc alors, c'est quoi les différents types d'outils que vous utilisez? Déjà les bois, les types de bois
Les bois, et puis c'est érable principalement, et puis ébène pour la touche.
D'accord. Et sinon, c'est uniquement des principes mécaniques, il n'y a pas de métal, y a pas, à part les cordes, il n'y a pas de pointe, de clous.
Non.
Y a,
c'est du bois collé.
Du bois collé, donc voilà, beaucoup de colle, vous utilisez.
Sont à la colle, c'est des colles chaudes, des colles organiques. À base d'os ou de nerfs.
Genre les peaux de lapin?
On n'utilise pas de peau de lapin, on utilise de l'os, du nerf.
Ah ouais?
Principalement. Donc c'est des colles réversibles en fait. C'est ça qui est intéressant pour nous. Notamment en restauration. Parce que il faut que toute restauration soit potentiellement réversible. Parce qu'il ne faut jamais exclure que peut-être dans 20 ans, il y a un luthier qui va tomber sur ta resto et qui va trouver qu'elle est mal faite parce qu'il est meilleur que toi et qu'il va la refaire.
D'accord.
Donc il faut que ça puisse être réversible et il faut que ça puisse être...
affiné en permanence, quoi.
Visible, pas forcément visible, parce que le but c'est que la restauration soit le moins visible possible, mais qu'elle soit visible pour un œil de luthier.
D'accord.
De manière à ce que...
Donc le luthier, il travaille essentiellement entre l'œil et la main, quoi.
Exactement, l'œil et la main.
Et alors par rapport aux outils, c'est quoi ces petits trucs, là, ronds, là qui, je vois, c'est, ça, on dirait ça, des serre-joints, mais ils sont ronds.
Propre à la lutherie, ça s'appelle des vis à tabler. Et c'est conçu pour coller la table à la couronne de crise, quoi.
C'est pratiquement que le violon qui a cette corde en plus.
D'accord.
Mais qu'est-ce qu'elle fait cette corde en plus? Elle génère des fréquences. Elle génère des fréquences, il faut qu'ils attendent 2 minutes. Elle génère des fréquences qui sont très aiguës et qui facilitent la transe.
D'accord.
Encore plus que les autres. Ce qui veut dire que c'est la raison numéro un pour laquelle les traditions musicales rurales ont repris le violon et on l'a adopté si vite.
D'accord.
Parce que on peut, surtout quand on l'accorde un ton au-dessus, on augmente un peu encore les suraigus, quoi. Ces suraigus-là tapent directement dans ces cervicales qui sont responsables de la mise en transe de l'individu.
D'accord.
Et comme la musique traditionnelle européenne, c'est des musiques de transe, et ben ça a été un outil hors pair. En fait, pour faire toutes les cérémonies. de trans possible. La raison numéro un, c'est celle-là, c'est la trans. Et la raison pour laquelle il a été si amplement utilisé dans la musique occidentale, de la Renaissance et après, c'est le fait qu'il, d'un, qu'on peut jouer debout en dansant pour enseigner les danses de cours, qu'il a été très facilement maniable par les maîtres d'armes qui étaient donc les maîtres de danse aussi, parce que l'utilisation de l'archer et celle de l'épée est similaire. Et aussi le fait que ça imite la voix humaine. Et la voix humaine, jusque-là, c'est l'instrument qui a été le plus développé parce que son utilisation ecclésiastique, très 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 présente dans le monde occidental à l'époque, faisait l'instrument numéro un. Quand on a voulu donc jouer un instrument manufacturé, quoi, à part la voix, bah, on s'est tourné par ce remplaçant de la voix, en fait. Voilà, donc c'est pas exactement les mêmes raisons, parce que la trance, par exemple, était, la musique de trance était complètement occultée dans les sociétés, dans les palais, les cours royales européens, complètement. Et aussi dans la société occidentale. À cette époque-là. Le violon, à cette époque-là, il a été, il avait le design qui était à peu près fini, à peu près comme celui de maintenant. L'ergonomie était complètement différente. Pourquoi ? Parce que les cordes étaient en boyau nu, comme se faisait à l'époque, on faisait les cordes en boyau, pas de chat, comme le mythe dit, mais c'était des boyaux de mouton, de cochon et de bœuf, qui avaient donc des résistances à la traction complètement différentes, et qu'on mélangeait selon les cordes qu'on fabriquait. On les traitait, on les lavait, découpait, séchait, et tressé ensuite. Sur la corde de mi de violon, par exemple, c'était un boyau seul de mouton. Sur la corde grave des basses de viol, qui sont donc l'ancêtre de la contrebasse, de la même époque, c'était un tressage des trois, de bœuf, de porc et de mouton, qui leur donnait une sonorité, une résistance complètement différente, en sachant que c'était très grosses cordes qu'il fallait tresser, en fait. Voilà. Donc, en gros, c'était ça. Il avait un tout petit manche, la barre était taillée dans la masse, la barre d'harmonie est une petite pièce de bois allongée qui se trouve à l'arrière de la table d'harmonie, donc le dessus du violon, et qui est placée de haut en bas, dans la longueur du côté des graves, exactement sous le pied gauche du chevalet, et qui son rôle, c'est de rigidifier la voûte, pas que la voûte, c'est la courbe qu'il y a sur le haut de la table, la rigidifier pour empêcher qu'elle s'effondre, et deuxièmement transmettre la vibration reçue par l'amortisseur, donc le chevalet à gauche, donc la vibration des graves, la transmettre sur toute la table pour ensuite l'amplifier à l'intérieur de la caisse. Le même travail côté aigu est fait par l'âme, en partie. Voilà, les graves sont des fréquences, les graves qui, dans le cas du violon, ne sont pas vraiment des graves. C'est des médiums hauts, dominants, quoi.
Alors, ce qui est drôle, c'est que la barre d'harmonie, elle est dans l'horizontalité et l'âme est dans la verticalité.
Bien sûr. L'âme est un poteau qui est coincé entre la table et le fond. D'accord ? Qui a deux fonctions. Une, de transmettre les aigus. Deux, de mettre en phase le mode vibratoire de la table avec le mode vibratoire du fond. Tu vas me dire pourquoi elles vibrent différemment ? Parce que c'est pour la même géométrie de pièces, on a des densités de bois complètement différentes et des manières de mouvement différentes, qui donnent en fait la chose suivante, c'est que quand elles vibrent, elles vibrent très souvent, enfin tout le temps, en opposition de phase. Du coup, si on n'avait pas mis d'âme, on aurait moins d'aigus, mais surtout, on entendrait les périodes qui s'entrechoquent. Donc on entend un...
Les périodes, c'est quoi les périodes ?
Les périodes. T. Taf. Je sais pas comment on appelle ça en français. Période. C'est le temps que met le temps que met
une vibration, un
corps vibratoire, le temps que met le corps vibratoire pour partir d'un point zéro, monter à un point A, revenir au zéro, revenir au zéro.
C'est quoi le parcours du son dans la table, dans le à l'intérieur? Comment il circule le son? T'as une idée?
Oui. Alors, donc, si tu veux, la corde fait un son.
Mm-hmm.
D'accord? On la pince ou on la frotte, mais en tout cas, on la fait vibrer, elle émet un son. Ce son-là est absorbé par un amortisseur
mm-hmm.
qui se trouve au milieu, qui s'appelle un chevalet. D'accord? Il est aussi absorbé par un bout de bois sur lequel la corde s'arrête, qui est tout en haut, qui s'appelle le sillet, du haut. Il est absorbé aussi par une autre pièce triangulaire qui se trouve en bas du violon, qui s'appelle un cordier, et qui est relié au violon. Le cordier est attaché au violon par un bouton, donc une corde qui attache un bouton, qui rentre dans le corps du violon, dans un petit bloc de bois qui s'appelle le tasseau du bas. Donc ça, c'est un des points nœuds d'un instrument. Donc si tu veux, le son il part dans trois directions, mais surtout sur celle de l'amortisseur. Si tu veux, le sillet du haut, donc tout en haut, qui arrête la corde en haut, est une pièce en ébène d'une densité très 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 dure, et le plus dur possible, de trois fois supérieur au reste des bois utilisés sur un violon, et est censé arrêter la vibration. Mais on ne peut pas dire qu'elle arrête complètement, parce qu'il y a quand même un tout petit peu de cette vibration-là qui passe quand même. Mais c'est presque négligeable. Sur le chevalet, qui se retrouve au milieu du violon et qui est un amortisseur en bois, là, on le fabrique de telle manière pour qu'il prenne le maximum de la vibration possible. Pour qu'il y ait le maximum de la vibration qui soit transmise dans la caisse d'amplification. Ensuite, il y a très peu de vibrations aussi qui partent dans le cordier, dans cette petite pièce triangulaire, qui est également fabriquée en bois très dur, mais qui n'est pas du tout censé arrêter la vibration. Il est censé de la transmettre avec un signal le plus droit possible, c'est-à-dire avec le minimum d'harmoniques de fond possible. Donc il n'est pas enrichi. Tu comprends ?
Mm-hmm.
Bon. C'est pour ça qu'on utilise des boîtes dures pour ça. C'est pas parce qu'on veut pas qu'il casse, par exemple. Parce qu'on pourrait très bien le fabriquer en érable, qui est un bois sonore, de densité mi-dure, mais qui développe, qui enrichit le signal. Il y a plein de filtres, ce bois, qui enrichissent le signal. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on appelle ça un bois sonore. Un bois sonore, c'est ça. C'est un bois qui a plein de filtres, qui enrichissent d'une manière précise le signal vibratoire. Donc, c'est pour ça que sur un violon, un instrument du quatuor, la tête, le manche, le fond et les éclisses sont fabriqués, donc tout l'arrière-caisse sont fabriqués en érable. Et le dessus, la table d'harmonie, est fabriquée en épicéa, qui est un bois très, 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 de densité très très faible, 1,34 ou 1,36 à peu près, et qui fait office de membrane en bois. Ça marche exactement pareil qu'un ampli qui reçoit un signal électrique. Voilà, donc la chose, c'est comment est-ce qu'on va amplifier ce son? Quel genre de filtre on va lui mettre à ce signal qu'on départage de cette manière? On canalise donc le maximum de la vibration sur le chevalet qu'il envoie à l'intérieur de la membrane, rigidifiée par la barre d'harmonie qui se trouve le long de la membrane. Il y a d'autres instruments de percussion, par exemple la cuica, qui a des membranes, qui a des choses derrière, tendues derrière la membrane, qui évite son effondrement parce qu'on n'arrête pas de bouger cette membrane. Ce qui se passe, c'est que l'âme, donc, qui se retrouve sous le pied, enfin sous, en dessous et un peu en avant du pied droit du chevalet, de cet amortisseur, donc, s'occupe des aigus. En premier lieu, quoi. Et s'occupe de transmettre les aigus dans la caisse, mais dans le fond, mais pas que. Aussi, de mettre en phase le mode vibratoire de la table et du fond. Donc, et régler cette histoire de T qui s'entrechoque. C'est-à-dire que la manière dont gère ces périodes, donc, tu vois ce que je veux dire.
À tout à l'heure.
Les périodes T qui, donc pour un La, sont 440 dans une seconde. C'est-à-dire que dans une seconde, le corps vibratoire fait 400 fois, 440 fois cet aller-retour, de 0 à 0, en passant par le maximum et le minimum. Tu vois ce truc? Et le fond le gère d'une autre manière, c'est-à-dire qu'il bouge d'une manière plus lente et surtout différente. Voilà. En sachant que la table bouge, si on allonge le violon du haut en bas et dans la verticale et du haut en bas dans l'horizontale, c'est-à-dire qu'il fait ça, les vagues, plus ça. Le fond c'est pareil, il fait ça, plus ça, avec des densités différentes. Donc tu vois le bordel que ça crée quoi. L'âme, elle est coincée entre deux et elle les oblige à bosser ensemble, en fait. Et donc, on élimine, si tu veux, la génération parasite trop grand. On en a quand même des parasites générés par l'amplification du son. Toujours. Comment régler le problème? Parce que le violon a bien entendu un son pur, très clair. Où les fréquences, le tapis de fond et les harmoniques sont bien rangées dans la musique classique occidentale. Évidemment, là rentre en compte l'affaire du brouillage du son selon l'esthétique diverse et variée des cultures traditionnelles. Et c'est pour ça qu'on trouve des violons qui ont été grattés à l'intérieur, où on a modifié leur comportement à l'attraction, à la pression. On a inventé des violons où on pend des choses à l'intérieur qui vibrent et que leur vibration est amplifiée à l'intérieur du corps par, donc avec l'amplification des cordes qui vibrent par sympathie donc. Mm-hmm. Et d'autres objets qui vibrent par mouvement parce que le violoniste en dansant les fait bouger à d'accord. l'intérieur par exemple ou à l'extérieur donc ça veut dire qu'on a pris on a fabriqué finalement un instrument sur lequel on a essayé de purifier le son pour qu'il ressemble le plus possible à la voix humaine lyrique selon l'esthétique de l'époque, de l'opéra donc, puisqu'entre temps Monteverdi est apparu, donc l'opéra italien. Et là-dessus, on commence à voir la musique classique qui commence à se développer dans l'Occident. Et aussi dans les cultures traditionnelles, ben, on a l'inverse, c'est-à-dire on brouille le son pour faciliter la transe. Et pour correspondre à l'esthétique sonore des enfants.
Donc j'ai une petite gazinière là-bas, vous faites chauffer la colle là-dessus en fait.
Ouais, voilà, sur des toutes petites électriques toutes bêtes.
Et vu que c'est de la colle d'origine naturelle, de toute façon, c'est pas...
Non, on l'avait au bain-marie en plus.
Oui, voilà.
Avec de l'eau déminéralisée. Voilà.
Dis-moi, Katerina, je profite, je peux t'interviewer là? Parce que je peux te poser une question. En fait, bah, là, on est chez toi dans ton atelier. Il y a combien de temps que t'es là, en fait? Que t'es installée dans cet atelier?
5 ans.
Ouais, et tu as appris la lutherie avant, auprès de. Dans d'autres ateliers, à l'école, par quoi t'es passé en fait?
En septembre prochain, ça fera 20 ans que je fais de la lutherie.
D'accord.
J'ai démarré donc en septembre 91. Mm-hmm. J'ai fait l'école de lutherie de Mircourt. Mm-hmm.
Et tu venais d'où avant? T'habitais où avant Mircourt?
À Athènes.
À Athènes, d'accord. T'es venue pour cette école-là?
Oui, oui.
D'accord. Parce que tu la connaissais réputée
Parce que à cette époque-là, et peut-être encore maintenant, j'espère pour longtemps encore, c'est la meilleure école
au monde. On a cette chance-là alors en France
Oui, on a cette chance-là. Il faut la conserver. Mmh. Bordel.
Donc il y a 5 ans que tu es installée ici, donc c'était un atelier qui existait déjà avant.
Oui.
Qui était tenu par quelqu'un.
Depuis 25 ans, donc là ça fait 30. qui était créé et tenu par un luthier que j'ai remplacé lors de son départ en retraite.
Donc cette pièce-là, mais elle est en quel bois ?
Épicéa.
Épicéa. Et elle mesure combien ?
Elle mesure de haut en bas exactement la longueur à l'endroit où on veut, entre le bas de la table et le bas du fond.
Et l'épaisseur moyenne, elle est standard, l'épaisseur du violon, ou c'est variable ? Ça varie de... c'est combien à peu près ?
À l'époque, c'était plus faible que maintenant, mais quoique... Des fois, c'était plus gros. Il n'y avait pas de standard.
Ça se mesure en centimètres. Enfin, l'unité de mesure, c'est le centimètre.
On va dire que c'est autour de 30
millimètres.
Toujours. D'accord. On mesure en millimètres.
Et donc, du bas en haut ?
On ne mesure pas un violon du bas en haut. On mesure un corps qui a été fixé en Italie par Strad en 1715 à 35,6. Voilà. Avec un instrument qu'on a pris pour un standard esthétique et sonore, qui s'appelle le crémonet. Or, ces instruments à l'époque étaient faits baroques, c'est-à-dire cordon boyau, un petit manche. Cette barre d'harmonie qui fait tout ce travail-là était taillée dans la masse, elle n'était pas collée. Elle était taillée dans la masse, dans le même bois, enfin dans le bois de l'épicéa. Elle est toujours en épicéa d'ailleurs, mais maintenant elle est collée, parce que le violon a subi des transformations. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? La virtuosité du violon s'accroissant, à un moment donné, on arrive avec des compositeurs et des joueurs qui commençaient, du temps de Paganini, Viotti aussi, enfin, qui commençaient à jouer des choses injouables dans l'état ergonomique actuel de l'instrument. Parce que aussi, donc, la touche était en érable, il était très différent. Le corps, la structure du corps et le design étaient le même. Strad l'a figé, mais.
Non, du violon baroque, des... là. Hein ? La vitrine, il n'y a pas un violon baroque ?
Si, mais là, elle n'a pas de caméra. Donc, j'ai décrit les choses. Du coup, Strad l'a figé, mais on continue à jouer avec des cordes, enfin, avec l'ancienne manière. Or, vous vous retrouvez avec Paganini, par exemple, qui est un peu le violoniste phare de cette école des virtuoses qui apparaissait, qui se régalait à jouer des choses très vite, qui donnait de la matière à des compositeurs à composer des choses qu'eux pouvaient jouer et qu'eux-mêmes étaient compositeurs et qui composaient, par exemple, les Caprices de Paganini, qui devaient être particulièrement injouables sur des instruments de l'époque. Donc les luthiers, en technicien qui apporte les solutions ergonomiques à l'outil pour pouvoir faire ce qu'on veut faire, ont dû transformer la chose. À ce moment-là, l'école de la lutherie de Crémone, d'Italie du Nord, avait décliné. Et il y avait des marchands donc, qui, sentant la mode la mode de la virtuosité violonistique qui arrivait en France, donc, à Paris, où on a eu par exemple l'ouverture du Conservatoire de Paris à la fin du XVIIIe siècle, avec qui a embauché Viotti, par exemple, au professeur du conservatoire, ce monsieur Viotti était un virtuose qui travaillait avec un horloger du Havre, dénommé Tourte, avec lequel on fabriquait un archer, défiant toute concurrence, quoi, l'archer magique, avec du perimbouc, un nouveau matériau que personne ne connaissait, qui arrivait du Brésil avec les épices. En support de transport d'épices, en fait, déchargé au Havre, matériau complètement imprescible et qui coulait, qui était imperméable aussi. Ils savaient pas trop quoi en faire, sauf que voilà, ces deux-là, ils ont trouvé quoi faire. Ils ont fabriqué un archer qui enfin faisait ce qu'on voulait qu'il fasse. Et ces nouveaux virtuoses ont trouvé là-dessus des vrais outils, solutions pour faire cette nouvelle musique que, évidemment, encore une fois, tout le monde trouvait horrible. Trop fort, trop vite, trop pédante, pas assez respectueuse à la religion, etc., etc. Et surtout, on l'écoutait dans les salons. Et on écoutait du violon solo dans les salons, accompagné avec du pianoforte. Donc, en France, les luthiers se sont attelés à la chose suivante: transformer ce violon baroque pour en faire un violon avec plus de son, plus de précision, plus de longueur de corde, plus de possibilités, plus de vitesse, plus d'exactitude, plus de puissance, plus de tout quoi. Ça suffisait plus. Mais le violon était déjà devenu un standard incontournable de la musique et on ne pouvait plus s'en passer. On ne pouvait plus inventer un autre instrument, il fallait faire évoluer celui-là. Donc, on a changé les cordes, on les a filées avec du métal pour qu'ils soient plus résistantes et qu'on puisse les accorder plus haut. Ensuite, pour, et plus haut, pourquoi plus haut? Pour obliger la caisse de générer plus de son, donc avoir plus de puissance, donc en l'étendant plus, et sonner plus haut en fréquence, mais surtout elles envoyaient plus de pression et plus de vibrations et plus nerveuses dans la caisse de résonance. Mais la caisse de résonance, avec sa petite table, sa petite barre d'harmonie taillée dans la masse, ne résistait pas. Donc on a rasé cette barre et on en a fabriqué une autre avec plus de forçage, plus longue, plus haute, qui résistait mieux et qu'on a incliné un tout petit peu par rapport aux fibres pour créer une résistance en plus. Ensuite, on a changé le chevalet, on lui a donné une autre forme, d'un amortisseur qui était plus nerveux et qui laissait plus de liberté aux cordes en métal, avec un bois plus dur aussi, parce que les cordes en métal, c'est des petites scies qui mangeaient le bois. Ensuite, on a changé la touche en érable et on en a fait une touche en ébène. Encore un matériau high-tech exotique qui a commencé à arriver des colonies occidentales et qui nous offrait une plateforme de jeu qui résistait beaucoup mieux aux cordes en métal qui mangent pratiquement tous les bois. Sauf les bois très très denses comme l'ébène, qui a 3 fois plus de densité que les autres bois qu'il y a sur un violon. Donc on s'est retrouvé avec un nouvel instrument qui sonnait beaucoup plus fort, etc. C'est-à-dire le violon moderne. On a aussi rallongé le manche parce que, évidemment, que quand on veut des cordes plus épaisses, mais qui sonnent plus haut, on doit avoir plus de longueur, hein, puisque la note, la fréquence émise dépend du calibre, de la longueur de corde vibrante.
Et est-ce que tu peux me dire un petit mot sur l'accordage? Est-ce que vous faites un dernier ou est-ce que vous faites entre-temps de la restauration? Est-ce que vous remontez les cordes entre deux? Enfin, comment, au niveau de l'accordage, comment ça se passe? Quand vous positionnez le chevalet et tout ça,
On le fait en dernier. A priori, on le fait en dernier. Parce que maintenant, le violon est figé au niveau de ses proportions. Parce que l'accordage, la manière dont on fabrique le chevalet, ça s'appelle fine tuning, c'est-à-dire l'accordage fin. Et c'est ce qui vient en dernier. C'est le fignolage de l'émission de fréquence.
Et vous accordez au diapason?
Au 440, 2 maintenant. C'est-à-dire que l'évolution est énorme. En 20 ans, quand j'ai démarré la lutherie, on accordait au 440. Maintenant, on accorde au 442.
Pourquoi?
En commençant à l'époque baroque au 430. Pourquoi? Parce qu'on accorde de plus en plus aigu. Parce que le La, le 430, c'était un La. Maintenant, le 430 n'est plus un La. Le La, il a 442 Hertz. Donc.
Et c'est dû à quoi cette évolution? Alors pourquoi on a besoin de faire évoluer?
À l'environnement sonore de l'humain, qui transforme l'oreille et sa perception du son. Tout y est, en fait. Tout est là. Tout est vraiment là. C'est la clé de la chose, quoi. C'est la perception du son, selon ce qu'on veut en faire, qui modifie son comportement par rapport à l'outil.
Donc tu veux dire que tous les nouveaux outils qui nous environnent, les voitures, les téléphones, toutes les fréquences qu'on subit au quotidien, ont une incidence sur notre approche
L'environnement sonore a une incidence certaine.
Parce que le la du piano, il n'a pas bougé, il est toujours, l'accordage du piano, c'est toujours...
Ah mais non, pas du tout, madame, c'est 442.
Ah ouais, aussi. Et ça a changé quand, ça?
Ça évolue.
Mais qui est-ce qui décide ça?
En 1550, le La était à 430 Hz, à peu près. Hein. D'après les choses... Après, c'est une recherche historique, mais on est quand même certain de ça. C'était bien ça. Il était à 430. Même, il y avait des endroits où il était à 428. Et en 500 ans, ben, on est arrivé avec 112 Hz en plus, quoi. Enfin, non, avec 12 Hz en plus. Ce qui est énorme, c'est parce qu'en fait on devient sourd, parce qu'on a besoin de plus de graves, parce qu'on est entouré de graves, de fréquences graves. Ça évolue encore plus vite depuis la révolution industrielle, début du siècle. inventé la machine et là on a été rempli de graves. Et les instruments sonnent de plus en plus graves. Donc on est de plus en plus fort. Donc on est obligé de monter les fréquences, en fait, de là, pour pouvoir garder la brillance du violon, quoi, en fait. La brillance du violon, on la situe de plus en plus haut. Parce que nous, on sommes pleins de plus en plus de graves. Et nos oreilles sont de plus en plus sourdes. Le vernis, les filets, la construction, la manière de travailler, le style.
Est-ce qu'il y a une griffe de la géométrie, la luthier tout. Il y a une griffe du luthier, une petite marque?
Non, souvent, mais dans les instruments du quatuor, la plupart des marques, enfin, on n'y suffit pas parce que
il y a
un trafic de fou qui fait qu'on ne peut pas se fier aux étiquettes, mais on se fie au style de fabrication. La manière dont un instrument est fait, sa chaîne opératoire de fabrication et de montage nous témoigne précisément de l'origine, de l'endroit de fabrication de l'époque. Et souvent, on peut même reconnaître la personne. C'est ça le travail d'expertise. Voilà. Ensuite, tu as les luthiers qui sont des restaurateurs, qui sont spécialisés dans la restauration des instruments anciens. Et tu as les luthiers comme moi, par exemple. Leur spécialisation, c'est, on appelle ça en anglais « setup ». C'est des monteurs, des gens qui règlent les instruments, qui donc travaillent l'ergonomie de l'instrument selon le jeu qu'on veut faire et qui vont faire combiner des cordes, des manières de fabriquer l'amortisseur qui s'appelle un chevalet et de placer l'âme, de la fabriquer, de la placer, etc. Pour donner le résultat optimum sur la sonorité d'un instrument.
Donc il me reste 10 secondes là, Katrina, bah, juste le temps pour te remercier de m'avoir accueilli et puis de m'avoir parlé du violon sous toutes ses formes.